bienvenue pour ce second podcast qui sera consacré à deux personnages essentiels dans l'histoire de la biologie, Jean-Baptiste de Lamarck, un Français, et Charles Darwin, un Anglais, au XIXe siècle. Jusqu'au siècle des Lumières, les religions interpénètrent l'espace des sciences et la vision de l'histoire de la vie et du vivant sont liées à celle d'un créateur qui, en quelques jours, crée toutes les espèces immuables, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. Il n'y a ni création, ni disparition d'espèces après cette période. Donc Dieu crée les espèces. Et c'est cette théorie fixiste qui va prédominer jusqu'à Lamarck et aussi Darwin. D'abord, rappelons une phrase très importante de Théodosius Dobzhansky. « Rien n'a de sens en biologie si ce n'est au regard de l'évolution. » Donc les sciences de l'évolution dépassent le cadre même de la science qui consiste à classer le vivant et à expliquer l'histoire des êtres vivants depuis l'apparition d'une première forme de vie jusqu'à aujourd'hui en 2020. D'abord, penchons-nous sur le mot « évolution ». À quoi fait-il référence? Alors, il existe, on peut répertorier 5 définitions au mot « évolution ». Certaines sont scientifiques, d'autres sont admises par le grand public, ne sont pas scientifiques. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'évolution? Puisqu'on va aborder la notion de transformisme amenée par Lamarck et Darwin, c'est-à-dire un changement de paradigme majeur pour expliquer l'histoire du vivant par rapport au fixisme d'origine religieuse. Alors, on considère que les sciences de l'évolution sont nées avec Lamarck. Qu'entend-on par évolution? Pour certains, c'est le processus de transformation des espèces. Pour d'autres, c'est tout simplement la théorie générale de la biologie et de la paléontologie, c'est-à-dire l'étude de l'histoire des espèces passées, l'histoire de la vie en quelque sorte. Pour d'autres, c'est tout simplement une histoire, un récit de l'histoire de la vie, passé, présent, futur, un scénario, un film, une fresque, un grand récit, qui est limité à l'analyse d'indices à disposition que l'on découvre. Pour d'autres, c'est tout simplement l'arbre de vie où toutes les espèces sont reliées entre elles par des relations de parenté plus ou moins fortes, avec des ancêtres communs et une filiation avec la première cellule apparue. Enfin, pour certains, mais ça c'est plus trop scientifique, l'évolution renvoie une marche vers le progrès. Alors, le progrès, c'est pas vraiment forcément un mot scientifique. Hein. Le scientifique ne s'occupe pas directement du progrès. Certains résultats scientifiques sont exploités de manière technologique ou médicale pour avoir toute série d'applications dans notre vie quotidienne. Mais en soi, le travail du chercheur n'est pas d'établir un progrès ou de se pencher sur des croyances, des espérances, sur du finalisme, c'est-à-dire il n'attribue pas à la nature un but, une morale et une certaine valeur. La science est amorale, ça ne veut pas dire qu'elle est immorale. Démarrons donc par Jean-Baptiste de Lamarck. En 1809, c'est une date importante, il élabore la première théorie transformiste de l'évolution dans son ouvrage « Philosophie zoologique ». Et ça ne se résume pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, à la transmission des caractères acquis. Alors c'est vrai que Lamarck porte cette idée forte qui est revenue au goût du jour il y a quelques années, hein, notamment en lien avec le néo-lamarckisme et l'épigénétique, qui est en gros que les êtres vivants descendants récupèrent les changements de leurs ancêtres au cours de leur vie. Voilà. C'est-à-dire que ça leur est transmis. Si une girafe développe un cou plus long au cours de sa vie, eh bien, cette longueur de cou nouvelle, acquise en fonction des besoins de cette girafe, seront transmis à ces girafons. Il y a 4 lois complémentaires établies par Lamarck. La première loi, c'est que la vie, par ses propres forces, tend à accroître le volume du corps qui la possède. En gros, la taille des êtres vivants croît. Et c'est l'individu qui porte la capacité à étendre les dimensions de sa taille jusqu'à un terme qui l'amène lui-même, mais de manière involontaire. ce qu'on pourrait résumer par cette première loi de Lamarck, par la vie croît sans limite, sinon celle qu'elle fixe. Deuxième loi, la production d'un nouvel organe dans un corps animal résulte d'un nouveau besoin et d'un nouveau mouvement que ce besoin fait naître. En gros, un nouveau besoin pour un être vivant crée et entretient un mouvement, ce qui produit un nouvel organe. En gros, ça se résume par l'idée, le besoin crée l'organe. Deuxième loi de Lamarck. Troisième loi, le développement des organes et leurs forces d'action sont constamment en raison de leur emploi. En gros, ça se résume, cette troisième loi, par la fonction fait l'organe. Quatrième loi, tout ce qui a été acquis, tracé ou changé au cours de l'histoire de la vie d'un individu est conservé par la génération suivante. Il y a donc une transmission aux descendants. C'est ce qu'on appelle, pour aller plus vite, l'héritabilité des caractères acquis. Ainsi, les conséquences de ces quatre lois, selon Lamarck, peuvent expliquer une complexification croissante de l'organisation des êtres vivants sous l'effet de leur dynamique interne propre liée à leur énergie, leur métabolisme. Il y a donc diversification ou spécialisation des organismes en de multiples espèces, sous l'effet de circonstances variées auxquelles les êtres vivants sont confrontés dans leur milieu et auxquelles ils sont contraints de s'adapter en modifiant leur comportement ou leurs organes pour répondre à leurs besoins, indépendamment de leur volonté ou désir, mais toujours selon cette dynamique interne propre à la vie, qui est un processus où les flux de matière nécessaires à la vie structurent la matière vivante, et par la suite, les organismes. Voilà la première thèse transformiste. Darwin gagne le droit de faire un voyage autour du monde dans sa jeunesse, et est un naturaliste qui aura toute sa vie été mené par deux idées. 1. La science est réfutable. 2. Le poids de l'observation est supérieur à celle des théories. C'est un très scrupuleux observateur du monde vivant qui envisage sans arrêt les contre-arguments qu'on pourrait amener à sa théorie, qu'il a mis toute une vie à construire, mais qu'il a dû un peu précipiter dans sa parution parce qu'un de ses amis, Richard Wallace, avait à peu près la même idée. Il ne voulait pas que la paternité de son idée lui soit soufflé par quelqu'un d'autre dans l'histoire. Ainsi, le 24 novembre 1859, il sort son livre, qu'on appelle souvent, sous son nom raccourci, de l'origine des espèces. En fait, le véritable titre est assez différent de celui-ci. Le véritable titre de l'ouvrage phare de Darwin, qui paraît donc le 24 novembre 1859, c'est « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». Ce qui intéresse Darwin, c'est l'invariance malgré la variation, c'est-à-dire expliquer le non-changement à travers le changement, expliquer comment, par exemple, des chats tous différents font toujours des chats. Et c'est dans ce sens-là, et non dans un autre sens, comme on lui fait souvent injure, disons. On comprend souvent mal Darwin, la première chose à faire, c'est de le lire. Ainsi, Darwin n'a jamais défendu la loi du plus fort, et le darwinisme social, c'est une exploitation de Darwin. Darwin est juste un scientifique qui, tout au cours de sa vie, n'aura établi qu'une théorie, mais une théorie importante, modifiée depuis, mais toujours maintenue dans ses grands principes aujourd'hui en 2020, qui est celle de la sélection naturelle. Reprenons maintenant les points fondamentaux de la thèse transformiste darwinienne de la sélection naturelle, qui est aussi, on va dire, la base des sciences de l'évolution. Pour lui, et on peut le considérer, l'évolution est naturellement contre l'intuition. Ça, c'est ce qu'on peut se dire, parce qu'elle est hors de nos sens, elle a une ampleur supérieure, et elle se fait sur des durées qui nous dépassent par rapport à l'échelle d'une vie humaine. Reprenons la théorie darwinienne par les 10 points qu'a élaboré Patrick Thor, qui est peut-être le spécialiste de Darwin. Petit 1, tous les êtres vivants, à l'état naturel ou domestique, présentent des variations. Ils sont tous uniques, différents entre eux. Cette variation est aisément observable, autour de nous, au sein de notre famille, en allant dans un milieu naturel. Et Dieu sait que ses années de voyage à travers le monde ont confirmé cette observation. Donc pour lui, c'est ce qui le frappe en premier, c'est la variation. Et pour lui, s'il y a variation, c'est qu'il y a une capacité à varier, c'est-à-dire qu'il y a une variabilité naturelle des êtres vivants. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, la reproduction peut être orientée et fixer davantage des caractéristiques à la descendance que d'autres. Et l'homme s'appuie dessus lorsqu'il sélectionne, croise des chiens entre eux, sélectionne des variétés de plantes, etc. Ça, c'est le point numéro 3. Petit 4, il en tire une hypothèse. C'est que les organismes ont donc une aptitude à être sélectionnés. Il y a donc une sélectionnabilité. Quel peut être l'agent de cette sélection naturelle? Il y a cette sélectionnabilité. C'est le point qui va suivre. Il observe qu'on peut évaluer le taux de reproduction des espèces et leur capacité de peuplement. Qu'en déduit-on, point numéro 6, qu'il y a une capacité infinie de peuplement des espèces dans leur milieu, c'est-à-dire il y a une capacité de surpeuplement. Et elle est naturelle. Or, petit 7, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On observe la plupart du temps dans la nature l'existence d'équilibre entre des espèces qui coexistent sur un même territoire. Donc, point numéro 8, qui est tiré du paradoxe entre les deux points précédents, bah, c'est qu'en fait, si les points 6 et les points 7 sont un peu opposés, bah, le point 8, c'est de dire, bah, hypothèse, il y a un mécanisme régulateur qui opère au sein de la nature et qui réduit la capacité à proliférer à l'infini. Il va appeler ça la lutte pour l'existence, le struggle for life, qui va effectuer une sélection naturelle dont le principal effet et la survivance des plus aptes par le jeu de l'élimination des moins aptes. Question évidemment, qu'est-ce qui détermine une meilleure adaptation de certains êtres vivants par rapport à d'autres? Eh bien, point numéro 9, on observe la lutte pour l'existence au sein de la nature. Une lutte qui va être, en fait, de trois types. D'abord, il y a une lutte interindividuelle. Il peut y avoir une compétition entre individus d'une même espèce. Ils peuvent aussi, ça a été développé beaucoup par la suite et déjà beaucoup par Darwin, ils peuvent aussi coopérer, avoir une entraide forte. Mais il y a une lutte, parce qu'ils sont en compétition face à l'accès aux ressources naturelles, à la nourriture par exemple, face aux femelles dans le choix sexuel, etc. Ensuite, il y a une lutte interspécifique. Les espèces sont en lutte les unes par rapport aux autres. Et puis enfin, il y a une lutte des espèces avec leur milieu. Et c'est la somme de cette triple lutte qui constituerait en fait cette notion de tri des variations avantageuses dans un contexte donné, et qui assurerait donc le triomphe vital, héréditairement transmissible dans les mêmes conditions des individus qui en seraient porteurs. Ces derniers seraient par là même sur la voie d'une amélioration constante de leur adaptation à leur milieu. Citons Darwin, « C'est à cette conservation des variations favorables, écrit Darwin, et à la destruction de celles qui sont nuisibles que j'ai appliqué le nom de sélection naturelle ou de survivance du plus apte, dans son chapitre 4 de ce même ouvrage. Darwin aura donc passé sa vie à élaborer la théorie de la sélection naturelle, dans laquelle il fait intervenir la sélection sexuelle, qui est pour lui très intéressante. Notamment l'exemple du paon. Le paon qui aura le plus une roue impressionnante avec le plus d'yeux de couleur sera aussi plus choisi, mais aussi plus visible, plus lourd, moins apte à échapper à ses prédateurs. Et pour lui, la sélection sexuelle l'emportait sur la survie pour ces pans-là. Bien plus tard, dans la théorie actuelle, qui est le prolongement de Darwin, aujourd'hui il y a eu le néo-darwinisme, la théorie synthétique de l'évolution, élaborée dans les années 40, qui réutilise la sélection naturelle, mais qui va intégrer de nouveaux outils dans cette théorie de l'évolution, eh bien, il y aura la notion de fitness, c'est-à-dire la capacité mathématique, hein, c'est mesurable, qu'a un être vivant à avoir des descendants. Voilà. Et cette fitness va intégrer la capacité des individus à survivre par rapport aux autres dans leur milieu, au sein de leur population, et à se reproduire, et donc à transmettre leurs traits avantageux, plus avantageux que les autres, à leur descendance. Et c'est tous ces mécanismes qui expliquent le mouvement et la transformation des espèces. En revanche, Darwin meurt sans savoir quelle est la cause des variations. On saura plus tard que c'est l'ADN, les mutations de l'ADN. Voilà pour la part historique de Jean-Baptiste de Lamarck et de Darwin qui ont amené une véritable rupture dans l'explication de l'histoire de la vie on est passé du fixisme au transformisme.